Le journal vous est présenté par Maïwenn Bordron.
Bonsoir à tous. Il poursuit son combat pour l'indépendance depuis la Belgique. Carles Puigdemont, le président destitué de Catalogne, est de retour à Bruxelles depuis aujourd'hui, 4 mois après son arrestation en Allemagne. Et il est déterminé, vous l'entendrez. Élections législatives demain au Cambodge, des élections marquées par l'absence du principal parti d'opposition dissous l'année dernière. Le premier ministre Hun Sen devrait donc se maintenir au pouvoir après 33 ans à la tête du pays. Quel futur statut pour les régions kurdes? C'est la question qui est actuellement abordée à Damas par une coalition arabo-kurde reçue par le pouvoir syrien. Les négociations semblent avancer. Les forces démocratiques syriennes viennent d'annoncer la création de comités pour poursuivre les discussions. Jean-Yves Le Drian en visite à Cuba depuis aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères veut relancer les liens économiques avec l'île. Un gazoduc entre la France, l'Espagne et le Portugal. Le projet a été évoqué hier soir à Lisbonne par Emmanuel Macron et ses homologues espagnols et portugais. Le président français est prudent. Bastien Roch nous expliquera pourquoi. Le président destitué de Catalogne, Carles Puigdemont, est de retour à Bruxelles aujourd'hui, 4 mois après avoir été arrêté et emprisonné en Allemagne. L'Espagne a finalement retiré le mandat d'arrêt européen émis à son encontre il y a une dizaine de jours. Le leader indépendantiste catalan avait organisé un référendum d'autodétermination le 1er octobre, référendum jugé illégal par le gouvernement espagnol. Aujourd'hui, c'est en exil, depuis la Belgique, que Carles Puigdemont veut poursuivre la lutte pour l'indépendance. Il a donné ce matin une conférence de presse aux côtés de l'actuel président de la Catalogne, Lax Milota.
Je suis fier d'être de retour, a lancé Carles Puigdemont. Cela n'a pas été un voyage facile, mais ce ne sera pas ma dernière escale. L'indépendantiste souhaite continuer à faire le tour de l'Europe, voire du monde, pour, je cite, « défendre la cause catalane, la démocratie », ceci jusqu'à ce que les prisonniers politiques soient libérés. Carles Puigdemont.
Moi, je suis un Européen libre, pas uniquement dans l'espace de l'Union européenne, et dans tout le monde, sauf l'Espagne. Peut-être qui a tort, c'est l'Espagne.
Carles Puigdemont ne bénéficie officiellement d'aucun soutien de la part des États membres de l'Union. L'ancien président compte sur d'autres mouvements indépendantistes, comme en Flandre, en Belgique ou en Écosse.
Ça va continuer comme ça. Ailleurs, l'Europe, et surtout aussi en Flandre, il y a des amis de la démocratie, des amis de droits fondamentaux. Et donc là où il y a des amis des droits fondamentaux, il y a aussi notre partenaire.
C'est désormais depuis Waterloo, où il loue une villa rebaptisée Maison de la République, que Carles Puigdemont va continuer son combat. Pour le président en exercice, Kim Thora, la présence d'un quartier général en Belgique est une bonne chose pour mondialiser la cause catalane.
C'était l'un des plus importants représentants de l'Église catholique aux États-Unis. Le pape François a accepté aujourd'hui la démission de Théodore McCarrick. L'ancien archevêque de Washington était déjà interdit d'exercer son ministère après des accusations d'abus sexuels sur mineurs lorsqu'il était prêtre à New York. Nouvelle affaire de harcèlement sexuel aux États-Unis. Elle concerne cette fois le PDG de la chaîne CBS, Leslie Moon. Cette figure incontournable de la télévision américaine a été mise en cause par le témoignage de 6 femmes publiées hier dans le magazine The New Yorker. Les faits présumés se seraient déroulés sur plusieurs décennies depuis les années 1980. Le Cambodge se prépare à une journée d'élection demain. Le Premier ministre Hun Sen est en passe d'être réélu après 33 ans au pouvoir. 20 partis se présentent, mais l'opposition est très affaiblie. Le principal parti, le CNRP, a été dissous l'année dernière dans une vague de répression sans précédent. Les chefs du CNRP en exil ont appelé à boycotter le scrutin. La campagne électorale aura été marquée par une alternance d'intimidation et d'opérations séduction à destination des ouvriers et des fonctionnaires. Éléonore Sock était hier dans les rues de Phnom Penh, la capitale, lors des derniers meetings.
Dernier rassemblement hier pour le parti du peuple cambodgien de Hun Sen. Le Premier ministre se présente comme le garant de la stabilité, un discours qui résonne encore chez nombre de Cambodgiens âgés marqués par des années de guerre civile, comme Nun Sari, fonctionnaire.
Sous Pol Pot, j'ai tellement souffert que je me suis engagé à soutenir ceux qui m'ont sauvé la vie.
Pour Mit Sopol, ouvrier, le vote Hun Sen est avant tout un choix de raison.
En 2013, les ouvriers ont voté pour le CNRP en masse. Mais cette année, son excellence Hun Sen a donné de l'argent aux femmes enceintes. Il a promis d'augmenter les salaires et d'améliorer les conditions de travail. Alors on vote pour lui.
Autre ambiance au rallye du LDP, le petit parti de Kem Bisna, un tribun au discours enflammé qui semble séduire les jeunes supporters. On écoute Eng Sarao.
Moi, je pense que le plus dangereux, c'est que le pouvoir soit concentré aux mains d'une seule personne. Il peut faire ce qu'il veut. Alors que nous, le peuple, dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas cette liberté.
À la sortie de la ville, dans le village de Sansok, un ancien bastion de l'opposition avant qu'elle ne soit dissoute, l'ambiance est plus tendue. Les habitants disent subir la pression des autorités locales, désormais aux mains du parti de Hun Sen. Sarom, une veuve à la retraite.
Coche la case numéro 20. Ils sont venus nous mettre des bulletins de vote sous le nez et nous entraîner à cocher la bonne case.
Sa voisine, Chanti.
Ils nous ont dit, ici on fait les routes, les écoles, les ponts. Si vous ne votez pas pour nous, vous ne profiterez pas de ces avantages. Ils nous ont donné 5 dollars en disant, n'oubliez pas d'aller voter.
Peu de risques de débordement demain, 100 000 forces de l'ordre seront déployées pour encadrer le scrutin. Avant même de l'avoir remporté, Hun Sen a déjà prévenu. Il compte rester 10 ans de plus à la tête du Cambodge.
Une école de sages-femmes a été attaquée par des hommes armés aujourd'hui à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan. 3 personnes ont été tuées, un automobiliste et 2 membres des forces de sécurité. Au total, 63 personnes, surtout des femmes, ont été évacuées du bâtiment de l'école des sages-femmes. Aucune revendication n'a été formulée pour l'instant. Au mois de juillet, 2 attentats à Jalalabad ont été revendiqués par le groupe État islamique. Une coalition arabo-kurde est à Damas depuis hier pour évoquer avec le gouvernement syrien le futur statut des régions kurdes. Des discussions ont vraisemblablement avancé puisque la délégation du Conseil démocratique syrien, le bras politique des FDS, les forces démocratiques syriennes, vient d'annoncer la création de comités chargés de poursuivre les discussions avec le pouvoir de Damas. L'enjeu est de trouver une solution politique qui inclurait une décentralisation. Les négociations vont donc être longues. Elles ont commencé en fait dès le début du mois de juin de façon plus discrète, comme le précise Frédéric Pichon, historien et spécialiste de la Syrie, au micro de Nabila Hamel.
Ça s'est accéléré avec l'histoire de Manbij, lorsque les États-Unis ont demandé aux forces kurdes de se retirer de cette localité. Et donc, il y a déjà eu des contacts, oui, avec Damas, pour déjà connaître les conditions éventuelles d'un retour dans le giron de l'autorité de Damas. Il y a autre chose qui joue, c'est que Damas est en train patiemment, depuis quelques mois, de saper en quelque sorte ses forces arabo-kurdes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tribus arabes de l'Est syrien qui participent à ces FDS, mais qui rendent compte aussi beaucoup à Damas. Et donc les Kurdes sont pris entre, si vous voulez, les Turcs d'une part, les tribus arabes dans lesquelles ils sont incorporés et qui, eux, ont déjà fait le choix de Damas et ils n'ont pas tellement d'autres alternatives. Il se joue les conditions, en fait, d'un retour, à la légalité, si je puis dire, syrienne de ces zones qui, c'est vrai, depuis 5 ans, ont, de manière assez poussée, vécu une forme d'autonomie politique. Et donc, c'est difficile de revenir en arrière. Maintenant, les Kurdes savent que face à la Turquie, ils ne feront pas le poids, surtout si les Américains ne sont plus là. Donc, ce qui se joue, c'est comment conserver certains des acquis politiques de ces formes d'autonomie kurde par rapport à le réalisme qui est que, pour un certain nombre de choses, ces zones ont besoin de Damas pour le pétrole, pour les réseaux d'alimentation, d'électricité, les barrages, l'aéroport de Kamishli également, qui est contrôlé par Damas.
Frédéric Pichon, historien et spécialiste de la Syrie. Environ 1200 réfugiés syriens ont quitté le Liban aujourd'hui pour retourner dans leur pays d'origine. Un retour volontaire organisé par les 2 gouvernements depuis plus d'un mois. Des bus ont été affrétés par la Syrie et le Liban. En mars, le HCR, le Haut Commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés, avait mis en garde contre un retour prématuré des réfugiés syriens dans leur pays. Selon lui, la situation syrienne est encore trop instable et dangereuse à cause d'une guerre, je cite, gagnant en intensité et en complexité. Israël a annoncé aujourd'hui la construction de 400 nouveaux logements dans une colonie de Cisjordanie occupée. Une riposte à une attaque palestinienne hier. 4 personnes ont perdu la vie au total. Les tensions à la frontière entre Gaza et Israël ne faiblissent pas. Depuis le mois de mars, 156 personnes ont été tuées, des milliers d'autres blessées. Au Nicaragua, 40 médecins et infirmières ont été renvoyés hier de l'hôpital public de León, dans le nord-ouest du pays où ils travaillaient. Ils sont accusés d'avoir soigné des manifestants et soutenu des rassemblements contre le président Daniel Ortega. Depuis 100 jours, le Nicaragua est touché par une vague de manifestations violemment réprimées par le régime. Environ 300 personnes ont été tuées. Jean-Yves Le Drian poursuit sa tournée en Amérique latine après la Colombie. Hier, le ministre des Affaires étrangères est en visite à Cuba depuis aujourd'hui. C'est la première fois depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron qu'un membre du gouvernement se rend sur l'île. Objectif pour Jean-Yves Le Drian, développer les liens économiques avec Cuba. Une soixantaine d'entreprises françaises sont déjà présentes sur l'île. L'enjeu de la visite est donc important, comme le souligne Olivier Daben, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine au CERI.
On exporte pas mal de céréales à Cuba, mais il y a évidemment aussi le secteur du tourisme, le secteur du bâtiment. Bouygues est plutôt bien placé, il s'est vu attribuer la rénovation du port, donc c'est très important. Dans le sillage de Bouygues, il va y avoir d'autres PME qui vont être présentes. Donc il y a quand même des enjeux qui sont importants. Produits laitiers, fromage, accessoires automobiles, enfin il y a une gamme de produits assez importante et les enjeux économiques ne sont pas négligeables. Il y a eu une visite présidentielle qui était quand même importante, celle de François Hollande au mois de mai 2015. C'était donc il y a 3 ans, mais ça avait quand même été la première visite officielle d'un président français depuis la Révolution cubaine, donc c'était pas anodin. Et depuis, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de visites croisées dans les deux sens, et donc il y a un climat de bonne entente dans cette relation bilatérale. Je crois que c'est important pour les deux pays. En ce qui concerne Cuba, il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau président, il y a des nouveaux ministres, c'est une génération plus jeune, ce sont des gens qui ont une cinquantaine d'années, qui n'ont pas vécu la révolution, qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui essayent de mettre Cuba dans la voie du progrès pour les années à venir. Mais pour la France, c'est important aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de contacts entre la présidence, la nouvelle présidence Macron et l'Amérique latine jusqu'à présent. Donc c'est une étape qui est importante qui va être franchie.
Olivier Daben, président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine au CERI. Paris favorable à un projet de gazoduc avec l'Espagne et le Portugal. Emmanuel Macron a abordé ce dossier hier soir lors du sommet des interconnexions énergétiques à Lisbonne, aux côtés de ses homologues portugais et espagnols. Le président français a toutefois posé ses conditions. Bonsoir Bastien Roch.
Bonsoir.
Comment expliquer alors que la France reste prudente sur ce projet porté par ses voisins ibériques ?
Eh bien, la situation de l'Espagne et du Portugal est plutôt confortable sur le plan de l'énergie, grâce notamment aux énergies renouvelables et aux importations de gaz. Ils aimeraient donc bien pouvoir revendre leurs excédents électriques et gaziers à leurs voisins européens. Mais leur position géographique fait qu'ils sont un peu un îlot isolé au sud-ouest du continent. Et leur porte d'entrée vers le reste de l'Europe s'appelle donc la France. C'est tout l'enjeu du projet MidCat, un gazoduc qui relierait la péninsule ibérique à la France en passant par la Catalogne. Mais la France est assez sceptique, comme nous l'explique Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
La France estime qu'elle-même, en tant que pays, est bien approvisionnée en gaz naturel liquéfié. Pour les autres pays, plusieurs pays européens et l'Union européenne estiment que ce projet MidCat présente moins d'intérêt que par le passé et donc que sa rentabilité est sujette à discussion.
Pour se laisser convaincre, Emmanuel Macron a donc posé 2 conditions. D'une part, que ce projet soit rentable financièrement, et d'autre part, qu'il ait un intérêt écologique, 2 objectifs intimement liés.
Ce qu'a suggéré le président Emmanuel Macron, c'est que s'il y a des mesures qui sont vraiment prises pour fermer des centrales électriques à charbon en Europe, il y aura peut-être un appel à ce moment-là pour plus de consommation de gaz naturel dans le secteur électrique. Et dans cette hypothèse, on pourrait reconsidérer l'économie du projet MidCat du fait de cet appel à plus de consommation de gaz.
En attendant de s'accorder sur ce dossier, les 3 pays ont validé la construction d'une autre ligne d'approvisionnement électrique cette fois. Elle passera sous le golfe de Gascogne, un projet financé en partie par l'Union européenne, 578 millions d'euros. Jamais l'Europe n'a mis autant d'argent dans un projet énergétique.
Merci Bastien Roch pour vos explications. Un puissant typhon se dirige actuellement vers le Japon. Il devrait atteindre l'ouest de l'archipel ce soir ou demain matin, selon l'agence météorologique japonaise. C'est cette région qui avait été durement touchée au début du mois par des intempéries et des glissements de terrain. Environ 220 personnes avaient perdu la vie. En Inde, au moins 49 personnes ont été tuées depuis jeudi à cause des violentes pluies de mousson dans le nord du pays, annoncent des autorités aujourd'hui. Les pouvoirs publics de l'Uttar Pradesh appellent à évacuer les bâtiments à risque. Des précipitations importantes sont à prévoir dans les 5 jours à venir. Le bilan des feux qui ont ravagé lundi l'est d'Athènes en Grèce s'est alourdi. 88 personnes sont mortes. La nouvelle victime est décédée de ses blessures à l'hôpital. 10 victimes restent dans un état grave selon le ministère de la Santé. La météo pour la soirée, des températures qui vont de 16 à Brest à 26 à Perpignan. Demain, quelques averses sur toute la partie ouest, des nuages sur la côte atlantique.